Alors, on est encore dans la période des trois semaines. Dimanche, ça va être le 9 Av, ce fameux jeûne de Tisha B'Av qui fait un peu peur à tout le monde, qui angoisse un peu tout le monde. Si Dieu veut, on va sortir de cette période très lourde pour le Ham Israël. On le sait, c'est une période qui n'est pas simple. Il faut savoir que c'est une période qui ne dure pas depuis juste la destruction du Beth Amikdash, du Temple. Quand les Bnei Israël, quand on était dans le désert, et que Moshe Rabbeinu, il a envoyé les explorateurs pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en Israël et comment on va rentrer. Ils sont revenus et en fait, ils ont commencé à raconter des choses qu'ils n'avaient pas vues. Donc en fait, ils ont mis la panique, dans un camp. Imaginez-vous, on est tous, tous les Bnei Israël, les femmes, les enfants, les vieux, les machins. On a envoyé des gens pour voir un petit peu, comment ça se passe Israël, comment on va rentrer, où on va aller. Comme si on fait l'Alia, Quand on fait l'Alia, on vérifie quand même un petit peu. Imagine-toi, tu dis, je vais envoyer quelqu'un pour voir un petit peu, ou j'envoie mon mari, ou... Et il revient, tu sais pas l'enfer, tu sais pas l'horreur. Et il commence à te raconter des trucs. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ça? Il te rentre en panique. Tu te dis, mais on peut pas faire l'Alia, on peut pas monter en Eretz Israël. C'est exactement à peu près ce qui s'est passé. Sauf que les explorateurs, ils ont dit des choses avec leur bouche que leurs yeux n'avaient pas vues. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que dans la Megillat Echa, c'est le livre des Lamentations. On voit que c'est écrit, et si vous regardez bien, tout est en ordre alphabétique. Sauf qu'il y a un inversement au niveau de Aïn. Aïn, c'est les yeux, et le P, la bouche, pour nous montrer, Harami Midiskwa, pour nous faire savoir que les explorateurs, ils ont dit des choses que leurs yeux n'avaient pas vues. Et quand les explorateurs sont venus, ils ont raconté des horreurs sur Eretz Israël. Donc, ils ont mis la panique dans le camp. Et là, tout le monde a commencé à se lamenter. Comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Et encore, on a recommencé. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est quoi cette angoisse? C'est quoi ce truc? Tu es en train de nous planter? Et Bichla, la Kadosh Baruch Hu. Quoi? On était là-bas en Égypte et tu nous fais venir ici? Bon. Et là, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, bon, tu sais quoi? Ça y est. Ils sont tout le temps en train de se lamenter. Tout le temps en train de grogner, tout le temps en train de pleurer. Il n'y a pas de émouna, ils n'ont pas confiance en moi. Eh bien, tant pis. De ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, cette date du 9 Av, ça va être une date où le Ham Israël, il pleurera. Et on regarde bien, ce n'est pas juste la perte du Beth Amikdash. On voit que tout au long de l'histoire, on a vécu à chaque fois des horreurs. Il y a eu des pogroms le 9 Av, il y a eu, je crois, l'Inquisition. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont fait qu'à chaque fois, ça se passe le 9 Av. Malheureusement, très, 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 très proche de nous, quand on a perdu le Gouch Katif.
Parce qu'il y avait un avion qui s'est...
Des avions, j'en suis sûre d'histoire, mais on va dire que...
La première guerre et la deuxième guerre... c'était au mois d'août, c'était le
Nahon, exactement. L'expulsion des Juifs d'Espagne, les pogroms, la Shoah, le Veldiv, le Temple. Bon, Bekitsour, il y a eu plein de choses. Et si Bémet, on veut aller très, 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 très proche de nous, quelque chose qui s'est passé entre guillemets hier matin, c'est l'expulsion du Gouch Katif. Aussi, comme par hasard, le 9A, il faut le faire. D'accord ? Ça veut dire c'est énorme.
Excusez-moi, et s'il y a des gens qui décèdent le 9A ?
Oui.
Ça veut dire quelque chose ou bien...
Non, on ne va pas rentrer dans tous ces petits détails. On parle des choses qui nous prennent...
Il y avait des choses très, très proches de moi où il y avait deux fois...
On va dire que c'est des catastrophes qui touchent, d'une manière générale, l'ensemble du peuple d'Israël. Donc on voit que Bémet, cette histoire de la date du 9 Av, le Tisha B'Av, c'est une date qui est douloureuse pour nous, mais parce que quelque part... On a un petit peu créé cette situation parce qu'on n'est pas attaché assez à Kadosh Baruch Hu et au Chachamim, au Tzadikim, que quand un Tzadik te dit quelque chose, crois ce qu'il te dit. Quand la Torah te dit quelque chose, crois-y. C'est pas des paroles en l'air. C'est quelque chose d'important. Et il faut savoir que, donc, comme on avait parlé la semaine dernière par rapport au Beth Amikdash, et on avait dit que pour pleurer sur une situation ou pour pleurer Bichlal sur le temple, il faut l'étudier un petit peu. On était rentré un petit peu d'accord sur notre le sujet qu'il y avait notre propre temple. Il faut savoir que quand il y avait le Beth Amikdash et que les Kohanim faisaient les sacrifices, si les sacrifices, on avait tellement une connexion avec Akadosh Baruch Hu, c'est que quand les sacrifices, d'accord, étaient acceptés par Hachem, la fumée qui montait, elle était en forme de lion, elle se faisait en forme de lion, c'était la signe de leur royauté. Et lo aleinu, quand les sacrifices n'étaient pas acceptés, c'était en forme de chien. Et Bémet, qui avait comme ça une connexion, à tel point que le Beth Amikdash, ce n'était pas que pour nous les Juifs, même les Goïm, ils emmenaient des sacrifices. Même les Goïm, ils avaient conscience un peu, d'accord, de cet endroit, à quel point c'était Kadosh. Et il y a marqué comme ça que si Bémet, les Goïm, ils avaient été conscients que le Beth Amikdash, ce n'était pas juste pour les Juifs. Le Beth Amikdash, c'était en fait une shmira. Comment on dit une shmira? Une protection pour le monde. Eux-mêmes, les premiers, ils auraient fait attention au Beth Amikdash. C'est-à-dire que si à l'époque, d'accord, les Romains, Titus, il était conscient à quel point le Beth Amikdash, il était une protection pour eux-mêmes, jamais ils se seraient permis, ils auraient osé faire ce qui s'est passé. Il faut savoir que quand ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, les Lévi'im, c'est ceux qui faisaient, vous savez, qui c'était des tzadikim, et leur travail à eux, c'était de chanter, de faire la musique. D'accord, c'est des nigunim, comment on dit des nigunim, des airs qu'on a perdu d'ailleurs. On dit que celui qui entendait l'air des Lévi'im, il restait complètement stupéfié, il était même Roser Bitchouva, tellement c'était des airs qui touchaient comme ça de l'année Shama, c'était des airs très spéciaux. À tel point que même quand Titus, il est rentré et que les Lévi'im, il y a marqué qu'ils ont continué leur travail jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire, eux, ils étaient déjà rentrés, et eux, ils continuaient. Jusqu'à la dernière minute, ils ont continué leur travail, à tel point que quand Titus et son armée sont rentrés, ils ont entendu ces airs, ils sont restés, ils ont eu un petit moment comme ça de stupéfaction, tellement ça les a touchés. Donc, tout ça, c'est pour nous donner, nous rentrer un petit peu dans l'ambiance du Beth Amikdash. Maintenant, vous savez qu'on a eu deux Beth Amikdash, d'accord ? Et le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Shfichut Damim. C'est quoi Shfichut Damim ? Verser du sang. Alors, verser du sang, c'est pas juste venir prendre un couteau et assassiner. Shfichut Damim, c'est aussi, par exemple, quand tu fais honte à quelqu'un. Quand tu humilies une personne, quand tu lui as fait honte, d'accord, ça s'appelle Shfichut Damim aussi. Ça s'appelle donc faire couler du sang à une personne. Donc, le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Shfichut Damim, à cause de Gilui Arayot. C'est quoi Gilui Arayot? C'est des relations interdites, d'accord, entre hommes et femmes, toutes les relations interdites, et aussi à cause de la Avodah Zara. D'accord? Donc, le premier temple, il a été détruit à cause de ces trois choses. Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. D'accord ? Le deuxième temple, il a été détruit à cause de quoi ? De la Sinat Rinam. La Sinat Rinam, c'est la haine gratuite. Et il y a marqué comme ça, d'accord, que Béhémeth, si tu regardes bien, dans si tu regardes, la Sinat Rinam, ça veut dire, aux yeux d'Hachem, c'était encore plus grave que les trois choses précédentes. Donc, Shfichut Damim, Gilui Arayot, les relations intermédiaires, et la Avodah Zara. Ces trois choses-là qui sont normalement hyper graves, d'accord ? Il n'y a pas plus grave que ça chez nous, ok ? Ces trois choses-là, elles étaient pires que cette histoire. Ces trois choses-là, elles étaient moindres que la Sinat Rinam qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas supporté. Dans le mot Sinat Rinam, donc la haine de l'autre, d'accord, la haine gratuite, dans le mot Rinam, tu as le mot Chen. C'est quoi le mot Chen ? C'est la grâce. Et donc, en réalité, c'est quoi la Sinat Rinam ? C'est que la grâce de l'autre ne me convient pas. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un, en fin de compte, sa grâce qu'il représente ne te convient pas. Et on avait dit aussi la semaine dernière que c'était notre propre grâce aussi, souvent, qui ne nous convenait pas. On n'aime pas ces... Mokertov.
Il est sur le piano.
Donc, ça veut dire que, quelque part, quand j'ai de la sinatrinam, d'accord, le règne de l'autre ne me convient pas, ne me plaît pas, quelque part, je viens discuter la création d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que, quelque part, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Hachem il a créé. Donc, c'est un manque de émouna de ma part, un manque de croyance et de confiance en Hachem sur le fait que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est bien. Donc, je viens quelque part un peu faire la rébellion avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas grave. Ok, on avance. Donc, ça, c'était un petit peu, je vous remets un peu dans le contexte. On avance. Maintenant, sûrement que tout le monde connaît, d'accord, l'histoire, la fameuse histoire de Kamsa et Bar Kamsa.
Ouais, moi je la connais, mais tu peux la raconter, elle est incroyable.
D'accord, parce qu'il y a une deuxième histoire que sûrement tu ne dois pas connaître, qui est encore plus incroyable que ça. Alors, en très très rapide, on dit pourquoi est-ce que le Beth Amikdash il a été détruit ? À cause de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Il y avait un homme, dont on ne dit pas le nom, d'accord, qui allait faire une fête. Je crois que c'était le mariage de sa fille ou quelque chose comme ça. Il devait faire une fête. Et donc, il était en train, comme nous tous, comme on connaît, on fait les invitations. Et il marque. Et il avait un copain qui s'appelait Kamsa. Et dans la ville, il y avait un qui s'appelait Bar Kamsa. Il dit à son employé, voilà les cartes. Va chez chacun et distribue. OK, jusque-là, tout est normal. On connaît cette histoire. L'employé, il va et il voit Kamsa, il ne fait pas la différence, il connaît qu'il y a un Bar Kamsa, il se trompe et il va, il donne l'invitation à Bar Kamsa. Il se trouve, peut-être que je me trompe, hein, c'est Kamsa, Bar Kamsa, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas ça le truc. Il se trouve que maintenant, celui qui a reçu l'invitation, donc on va dire que c'est Bar Kamsa, il était en froid avec notre ami qui fait la fête. Il reçoit l'invitation, il se dit « Ah, sympa !» Il m'invite, ça veut dire qu'il va faire la paix. C'est cool. Bon, il est content, il est truc et tout. Il se dit, allez, je vais aller. Donc, il travaille ses midotes, lui, celui-là, maintenant, pour l'instant. Il se dit, tu sais quoi, je ne vais pas faire l'homshun, je ne vais pas faire le rancunier. Allez, j'y vais. D'accord. Il va au mariage. Il s'assoit, donc. Tout le monde est là. Notre ami est un noble, c'est un notable. Donc, tout le monde est là, toute la machin, les rabbanim aussi sont présents, tout le monde est comme il faut. Et là, la fête commence, et puis notre hôte commence un peu à se balader dans les tables, comme nous on fait quand on va voir nos invités, et d'un coup, il en voit un, et il se dit, mais c'est Bar Kamsa, je ne l'ai pas invité celui-là, ça va pas ou quoi? Il va le voir, il dit, qu'est-ce que tu fais là toi? L'autre, qui se sent mal, maintenant imagine, hein, on est tous à la table, dans la table, il y a aussi des gens, des rabbanim, il y a des gens un peu pieux. Il lui dit, écoute, j'ai reçu l'invitation, il n'en est pas question, tu te lèves tout de suite. Non, je t'en supplie. Non, mais là, si vous vous sentez mal, là, la deuxième histoire, vous allez tomber par terre.
Ah, la deuxième histoire, je la connais aussi.
Ah ouais. Alors, il lui dit, alors, et dans la gloire. Alors, il lui dit, écoute, je t'en prie, regarde, ne me fais pas honte, ne me fais pas lever en plein. Je t'en prie, je te paye, tu te lèves tout de suite, je ne veux pas que tu restes là, je t'en supplie, ne me fais pas honte, regarde. Maintenant, c'est une discussion, on est là. Il y a tout le monde qui écoute, hein. C'est pas tu dis c'est en belchquette, discret. Non, scandale, tout le monde s'arrête, tout le monde voit ce qui se passe. Je t'en supplie, ne me fais pas ça, ne me fais pas. Je te paye mon repas, je te paye le repas de la table, je te paye. Et l'autre, j'en ai rien à faire, j'ai pas besoin de ton argent, tu dégages. Il va crever notre ami de honte. Tout le monde est là, tout le monde s'arrête. Imagine-toi, il y avait tout le monde s'est arrêté, ils sont là en train de discuter. Comment il sort? Il sort avec la honte. Il est donc là, c'est l'humiliation, c'est tout ce que tu veux, et bien sûr la haine dans le cœur. D'accord, la haine, et c'est comme ça qu'après il est parti. Il a dit attends, tu vas voir, je vais les vendre, je vais les machins. Ok. Alors je veux quand même faire une petite parenthèse parce que les gens oublient de dire ça. Je sais que ça va peut-être pas plaire, mais c'est pas grave. On va le dire quand même. Il faut faire attention parce que des fois. Il y a des personnes, notre ami notamment, qui est un notable, donc c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a une situation, donc automatiquement, comme par hasard, il a beaucoup d'amis. Vous connaissez ça? Quand tu as de l'argent, tu as des copains, tu n'en as pas, les copains, tu ne les vois plus. Bon. Donc, il est là, il a fait une fête. Donc, tout le monde est venu, d'accord? Et beaucoup de gens, dans ces moments-là, eh ben, ils oublient leurs principes. Il y a des rabbanim à table. Il y a des gens avec un peu de logique. Tu vois cette histoire. Prends-le. Viens, dis-lui, écoute, ce que tu fais là, c'est assourd. Moi, si tu fais une chose pareille, je ne peux pas assister à une fête pareille parce que tu n'es pas en train de renvoyer Bar Kamsa, tu es en train de renvoyer Hachem. Parce qu'un invité, d'accord, c'est la Shrina. La Shrina, c'est la sainteté. C'est la... Tu es en train de renvoyer Hachem. Donc, si tu renvoies Hachem, je ne peux pas assister à ta fête. Il faut que tu comprennes que quand tu prépares une fête, d'accord, un mariage, une bar mitzvah, n'importe quoi, ton invité principal, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup de personnes aujourd'hui, Baruch Hashem, sont tellement conscients de ça qu'ils disent, bon, tu sais quoi, je vais peut-être pas inviter Akadosh Baruch Hu toute la soirée, mais au moins le premier quart d'heure, la première demi-heure, je vais mettre une petite méritza avant de lui dire, bon Hashem, maintenant regarde, dégage un peu s'il te plaît, on voudrait faire notre fête entre nous, on s'oublie. Bon, Baruch Hashem, au moins, on est conscient qu'un mariage, c'est, tu invites Hashem, c'est ton invité principal et qu'Hashem, il peut pas rester quand il y a la mixité, toutes ces choses-là. Donc, aujourd'hui, Baruch Hashem, on est conscient. Mais pareil, ça veut dire que quand tu vois qu'une personne, elle se fait humilier, quand tu vois qu'il y a une situation qui est interdite par la Torah, ton devoir, il était de te lever, d'accord, et de venir dire, excuse-moi mon ami, je suis ton ami, donc si je peux me permettre, ce que tu es en train de faire là, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent, ce n'est pas parce que j'en sais rien quoi que tu es le maître du monde. Il y a des droits de l'homme, il y a la halakha, il y a la bienséance, il y a tout ça. Le malheureux, il est là maintenant, qu'est-ce qui te dérange? Il y a 5000 personnes dans ta fête. Un, il te dérange. Donc ça, c'est important. C'était une parenthèse qui était très importante parce que souvent, on oublie ces choses-là. Mais ça aussi, ça fait partie de la destruction du Beth Amikdash. C'est-à-dire que quand un rav, d'accord, n'est plus capable de percevoir le bien du mal, parce que malheureusement, il y a ce qu'on appelle la ta'avat mamon, il y a l'argent au milieu. Arrête d'être rave, tu sais quoi? Sors de tout ça, parce que si tu n'es pas capable, malgré toute cette situation, de différencier, de regarder ce qui se passe, c'est pas bon. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc Bémet, que on voit que tout ça, c'est une histoire qu'on connaît et qu'on va nous dire que c'est marqué que c'est à cause de ça qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Mais les amis, il y a une autre histoire qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connue et qui est encore pire que celle-ci, parce que ça, c'est de la gnognotte, j'ai envie de te dire, c'est des histoires qu'on connaît. Et ça, c'est l'histoire qui a, entre guillemets, fait déborder la goutte dans le vase. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, ça faisait un moment qu'il avait, entre guillemets, les nerfs contre nous, qu'il n'arrêtait pas de nous envoyer des prophètes pour nous dire... Les copines, les copains, arrêtez, allez, revenez vers la normalité, soyez ensemble, faites les choses comme il faut, et nous, on n'en avait rien à faire. Alors, il y a donc déjà, Hachem, il était un peu remonté, si on peut dire ça. Et il y a une histoire qui a fait qu'Hachem, il a dit, tu sais quoi, arrête, là maintenant, c'est fini, je ne peux plus rester ici, je m'en vais. C'est pas la peine, c'est pas... C'est quoi l'histoire? Alors, il y avait une fois, une histoire où il y avait un menuisier. Et il avait besoin de quelqu'un qui l'aide. Donc, il a fait venir un petit apprenti. Et il lui a dit, tu sais quoi, tu vas faire les travaux. J'ai des travaux à faire. Tu vas faire les travaux avec moi. Et quand tu finiras les travaux, d'accord, je te paierai. OK. Tout se passe comme il faut. Et à la fin des travaux, en effet, tout est fait comme il faut. Donc, il dit à sa femme, va, voilà l'argent. Et va payer l'apprenti parce qu'il a fini son travail. La femme, elle dit, d'accord. Elle va, bon, j'imagine que il habitait loin, hein, c'était pas en bas de la maison. Elle y va, et puis au bout d'un moment, le mari, il dit, mince, elle revient pas, il y a un problème, d'accord. Elle est partie 3 jours. Je m'imagine que c'était loin, elle a dû prendre des trucs, le mari, il pouvait pas partir. On va imaginer comme ça, nous, d'accord. Au bout de 3 jours, il voit que sa femme, elle ne revient pas. Il se dit, bon, il y a un problème. Il va voir donc l'apprenti. Il lui dit, dis-moi, ma femme, elle est venue. Alors, il lui dit, oui, elle est venue. Elle m'a payé et elle est repartie. Il lui dit, parce qu'elle n'est pas revenue chez moi. Alors, l'apprenti lui dit, ah bon? Il lui dit, mais tu sais, je crois qu'elle a été avec un autre homme. Tu devrais la divorcer. Attends, c'est pas le pire. Il lui dit, ah bon, comment ça? Il dit, ben moi je crois, parce que 3 jours comme ça, c'est sûr, elle a été avec quelqu'un, tu peux plus compter sur elle, divorce-la. Notre ami lui dit, mais j'ai pas l'argent pour lui donner la ketouba, parce que avant, c'est pas comme aujourd'hui, on flambe, on marque des sommes et bah, sauf personne paye rien. Avant, quand tu marquais une somme dans la ketouba, fallait la payer. Tu montes et tu dis à tel point, vous savez que Rabbi Nachman il disait que si le jour où tu marquais une somme, d'accord, sur la ketouba, il fallait que tu aies cette somme cachée chez toi, comme si qu'elle n'existait pas, elle n'est pas à toi, pour que si Chas v'Shalom tu dois donner le guet, tout de suite tu dois donner la somme. D'accord ? Le Rida aussi disait ça. Alors il lui dit, mais j'ai pas la somme. Alors notre apprenti, très sympathique et très gentil, lui dit, tu sais quoi mon frère, allez t'inquiète pas, moi je vais te prêter la somme, comme ça tu lui donnes sa ketouba. La ketouba c'est le guet, c'est comme quoi il peut divorcer. Alors notre ami lui dit, mais comment je vais faire pour te rembourser ? J'ai pas l'argent. T'inquiète pas mamie, tu sais ce qu'on va faire ? Tu travailleras pour moi jusqu'à extinction de la dette. On va s'arranger, par exemple, combien vaut ton travail ? Tant par mois. Je t'ai prêté tant, pas de souci. Je te prête et tu travailles. Et au fur et à mesure, on éteint. L'accord est conclu. La ketouba, elle est donnée. Et c'est fini. Il a divorcé. Donc, notre patron se retrouve employé. Et il dit... Et donc, il commence à bosser chez notre apprenti.
C'est l'apprenti, le...
Attends. La ketouba a été donnée donc à la fin. Parce qu'à un moment, ils ont retrouvé. À un moment, il a retrouvé la fin. Oui, il l'a retrouvé à un moment donné. Attends. Et donc. Après, on va discuter de ça. Et donc.
De façon écrite, sortie de la Guémara.
Ah ouais, c'est dans la Guémara. Alors, il lui donne un truc et il se retrouve donc cet homme qui a divorcé de sa femme qu'il aimait lui maintenant, le malheureux. C'est pas qu'il aimait pas, il était tranquille chez lui. Il se retrouve, il sert donc son nouveau patron et il se retrouve qu'il s'aperçoit un jour, ils sont les deux, sa femme, son ex-femme et l'apprenti, ils se sont mariés. Et ils se retrouvent à leur servir le thé, à leur servir le café, truc. Et il y a marqué que quand il leur servait à boire et qu'il les servait, des larmes ont coulé. Et ces larmes-là, Kadosh Baruch Hu a dit, Atkan, je ne peux plus supporter, ce n'est pas possible. C'est la raison pourquoi le Beth Amikdash, il a été détruit.
Mais je vais t'expliquer
ce qui s'est passé, d'accord ? Alors, il s'est passé plusieurs choses, et ça, c'est très, très important qu'on en parle. Il y a ce qu'on a créé, on apprend, il y a une notion dans la Torah qui s'appelle « Naval Bereshut à Torah ». Ça veut dire que tu prends tes connaissances, tu prends la Torah, la halakha, la loi, et tu vas l'utiliser, d'accord, pour faire tes poubelles et ta crasse. Donc là, en réalité, la Gemara, elle vient et nous explique. Bon, laisse tomber que j'ai quand même un petit mot à dire, que la Gemara n'a pas dit, mais sûrement qu'on le trouvera dans un autre truc si on cherchait bien. D'abord, comment la femme, elle s'est retrouvée avec l'apprenti ? Sûrement que le mari, des fois, il est laissé un peu seul, tu sais ? Quand un homme, il laisse sa femme seule avec un plombier, un maçon, j'en sais rien quoi. Il faut faire attention.
Oui.
Pourquoi il y a marqué que les lois du Yichud, elles sont très importantes. Le Yichud, c'est l'isolement. Toute la Avera, elle commence comment ? Par les lois du Yichud. D'accord ? Un homme seul avec sa secrétaire, ou tu vois, des choses comme ça. C'est pas pour rien qu'il y a des lois. C'est pas... Ben oui. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des lois du Yichud. Il y a les lois, justement, de l'isolement, qu'on te dit, tu n'as pas le droit de te retrouver seul, enfermé dans un endroit, il faut laisser une porte, machin. Il y a plein de lois. J'ai juste envie de vous dire... le Rav Vosner disait qu'aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle des lois de Yehoud avec son ordinateur ou son propre son téléphone. Et c'est pour ça qu'il disait que quand tu as un ordinateur, d'accord, il faut qu'il soit au milieu du salon, à la vue de tout le monde. Pas que tu es dans un bureau derrière et que tu peux faire quelque chose et machin et que personne ne voit ce qui se passe. Ou pas que tu sois dans un endroit parce que... Tu t'isoles, c'est la Avera. Donc, il faut, c'est pas pour rien. Il faut faire attention de ne pas s'isoler, d'accord, avec un portable ou avec un ordinateur, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que tu n'as plus besoin d'avoir une femme en physique pour faire les Averotes. Tu peux les faire tout seul avec un écran. Bon, c'était une croix. Donc, sûrement que notre ami a dû laisser sa femme un petit peu seule. Ils ont dû peut-être se regarder, rigoler, machin, va savoir. Mais attention, la Torah, la Gemara, elle vient, elle nous dit, sache une chose. Et c'est là où on parle justement du naval bereshut à Torah. Celui qui utilise justement les lois à ses propres fins pour faire sa crasse et sa poubelle et ses folies. Il y a marqué comme ça que notre apprenti donc, a développé une romance avec cette femme, mais qu'il n'a pas été avec elle avant de se marier. Parce que sinon, en réalité, c'était interdit. Une femme, par exemple, d'accord, qui commet l'adultère, une femme mariée qui commet l'adultère avec un homme, ne pourra pas se marier avec cet homme. Donc, tu vois, il a été chacham. Il a dit, on va faire tout ensemble ce que tu veux, mais on n'a pas de relation intime, d'accord, ils ont dû faire tout ce qui se passe autour. On n'a pas de relation intime, bah oui. On n'a pas de relation intime, mais parce que la Torah, elle interdit. Donc, déjà. Donc, il y a eu le guet qui a été donné normalement. On ne peut rien lui dire à ce monsieur, il a fait des choses selon la Torah. Pareil, la Ketouba, je te prête l'argent, pas de problème, je ne prends pas de, je prends pas de ribite. Je ne prends pas d'intérêt, parce que quand tu prêtes de l'argent entre juifs, on ne peut pas prendre des intérêts. Je ne t'ai pas pris d'intérêt. Voilà, je t'ai prêté, tu me rends, comment, tu n'as pas l'argent. Tout a été fait selon les règles de la Torah. Et ça, la Torah, elle vient, elle te dit, il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter, d'accord, c'est quand justement tu apprends la Torah, et pas pour te rapprocher d'Hachem, pas pour essayer de développer un cœur, pour te, tu fais en fin de compte, tu utilises ta Torah, d'accord, pour tes propres fins. Et ça, Kadosh Baruch Hu te dit non, c'est pas comme ça la vie. La Torah, d'accord, c'est pour t'apprendre à vivre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a un Shulchan Aruch qui n'a pas été écrit, d'accord. Mais c'est un Shulchan Aruch, on dit que c'est le Ruach. Ça veut dire c'est l'esprit. Il y a des choses, d'accord, qui ne sont pas écrites, mais tu le ressens, tu perçois. Tu perçois que ça, ce n'est pas comme il faut. Ça, ce n'est pas une chose à faire. Et aujourd'hui, nous, on est là, on se dit, oh là là, c'est très grave, c'est machin et tout ça. Bon, Hachem, parce qu'on perçoit un petit peu, d'accord. Mais à l'époque, tu peux imaginer, ça veut dire la gravité de la situation. On est à une époque où il y a le Beth Amikdash. On voit Akadosh Baruch Hu presque. C'est palpable, ça veut dire il y a les Kohanim, il y a les Lévi'im, il y a les sacrifices, il y a tout ça. Et quand même, ils ont réussi à développer un cœur de pierre. Quand même, ils ont réussi à développer, d'accord, un système où en fait on va déjouer la Torah, on va prendre la Torah et on va s'en servir comme on a envie. Ça nous plaît, ça nous convient et tout ça. On va faire toutes nos avérotes sur le compte de la Torah. Et ça, Kadosh Baruch Hu l'a dit non. Ça, je ne suis pas d'accord, je me retire. Je préfère que tu viennes, tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, je sais, ce n'est pas bien ce que je suis en train de faire, je t'en prie, aide-moi. Mais pas tu dis, non, c'était permis, non, il n'y avait pas de problème, ça, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on doit, on a ce travail aujourd'hui, c'est ça notre travail avant, si Dieu veut que le Beth Amikdash va être reconstruit. Ce travail, c'est un travail intérieur. Parce que si tu regardes bien, ils avaient tout en réalité. Ils avaient le Beth Amikdash, ils avaient les Kohanim, ils avaient les Lévi'im, ils avaient tout. Et pourtant, l'essentiel, il manquait. Cette crainte d'Hachem qui se trouve à l'intérieur de ton cœur, elle n'y était pas. Et notre travail à nous aujourd'hui, c'est ça, c'est développer justement cette proximité avec Akadosh Baruch Hu dans notre cœur. Et il y a marqué d'ailleurs que celui qui ne fait pas ce travail, donc celui qui ne se lamente pas sur la destruction du Beth Amikdash, il y a marqué qu'il ne pourra pas se réjouir de la reconstruction du Beth Amikdash. Et ça, c'est une vraie punition. D'accord ? Parce que, imagine-toi, tu as le Beth Amikdash qui est là, qui est reconstruit devant toi, et tu ne peux pas te réjouir. Pourquoi ? Parce que tu as un cœur de pierre. Parce que tu ne ressens rien. Parce que dans ton cœur, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est scellé, c'est une pierre, il n'y a plus rien. Donc, tous les jours, on a ce travail à faire et à dire, je me dois de reconstruire, je me dois de faire en sorte que cette pierre, elle se ramollisse doucement, doucement. Maintenant, bien évidemment qu'il faut comprendre que Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à nous les Juifs une force comme ça, cette force qui a toujours été là et et qui aujourd'hui plus que jamais elle est alimentée par les paroles d'accord de Rabbeinu quand il nous dit le désespoir n'existe pas et il faut se relever de ses cendres et il faut continuer à être Bessimcha. C'est que il y a eu des prophéties et Rabbi Akiva quand il y a eu donc la destruction du temple et qu'à un moment donné tout le monde pleurait et tout le monde il était très mal, il y a eu un renard qui est sorti d'accord des ruines et il s'est mis à rigoler, il s'est mis à sourire. Alors les Chachamim lui ont dit, mais dis-moi, tu souris, on a le temple qui s'est détruit, tout est en feu, on a tout perdu. Alors Rabbi Akiva, il a dit, de la même manière que la prophétie qui est marquée qu'il y aura un renard qui sortira des ruines, d'accord, du Beit HaMikdash, alors je crois aussi en cette prophétie que Bezrat Hashem, le temple aussi va être reconstruit. Et à la fin de la Megillat Echa, qu'on va lire si Dieu veut le jour de Tisha B'Av, c'est les lamentations. Alors, il y a marqué quoi à la fin? Je vous le lis. À la fin, il y a marqué, je ne l'ai pas marqué, mais ce n'est pas grave, qu'il y a marqué comme ça que à Kadosh Baruch Hu, on est conscient, d'accord, qu'on a fait des fautes, on est conscient qu'on s'est éloigné de toi, on est conscient, mais Hachem, la tchouva, elle existe. C'est-à-dire que nous, on doit se rappeler d'une chose. Nous, on ne doit pas rester sur des ruines. On ne doit pas rester sur des destructions, on ne doit pas rester sur des catastrophes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, c'est notre histoire à nous. On ne s'en rend pas compte, mais oui, nous aussi, des fois on fait des différences, des fois on éloigne certaines personnes, des fois c'est comme ça, c'est la nature humaine, ce n'est pas un qui était il y a 2000 ans une pourriture. Des histoires de l'apprenti menuisier, malheureusement, c'est des histoires qui existent tous les jours, d'accord, dans le proche ou moins proche. C'est des histoires qu'on vit. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé la tshuva avant tout. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il sait que l'être humain, il est enclin à faire des catastrophes et des horreurs, d'accord, mais il sait aussi une chose. C'est qu'on a cette force de se relever. Tu es tombé, tu as été faire n'importe quoi, chacun il a sa propre perte, sa propre destruction de son Beit HaMikdash. Chacun il a sa difficulté, chacun il a son problème, chacun il a son histoire. Chacun, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas son histoire et son problème. Chacun il a, on va dire, sa difficulté journalière pour pouvoir se relever, pour pouvoir avancer. Une personne, ça va être son shalom bayit, où elle voit que malgré tout, elle n'y arrive pas. Une autre personne, ça va être, elle n'arrive pas à faire la tzniut, l'autre le shabbat, l'autre, elle a des problèmes, des pulsions alimentaires, l'autre, elle a des pulsions sexuelles, l'autre, elle a des pulsions de colère. Chacun, il a son histoire, d'accord? L'autre, il a un problème avec d'éducation avec son enfant. Alors, c'est vrai, c'est ton histoire. Rappelle-toi d'abord que ton histoire, elle est écrite par Hachem. C'est pas juste une histoire. Ton histoire, elle est écrite par Hachem. Et ton histoire, elle doit te servir à te rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que du plus profond, d'accord, de là où tu es tombé, du plus profond de ta difficulté, n'abandonne jamais Akadosh Baruch Hu. Appelle-le, crie au secours, dis-lui ne cache pas ta face, ne voile pas ta face de devant moi. Il y a la tchouva, je veux me relever, je veux pas lâcher, je veux avancer. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Et c'est ça en réalité le travail qu'on a à faire. Ça veut dire, surtout, ne te lamente pas sur ta situation. Surtout, ne reste pas bloqué sur un point négatif. Le juif, il est optimiste. De tout temps, on est toujours optimiste. Ça veut dire, il nous est arrivé les catastrophes de la terre, d'accord, depuis qu'on existe. Et pourtant, on voit bien, d'ailleurs, c'est depuis le début du monde, Chava qui a été avec le serpent et qui a pris de l'arbre défendu, d'accord, que ça aurait dû être la catastrophe nationale. Non. Hop, on s'est relevé. Hop, on a continué. Et toute l'histoire, elle est comme ça. Et nous, aujourd'hui, c'est exactement ça. Notre histoire à nous, c'est pas de dire, oh là là, j'ai un problème, je sais pas comment faire, et c'est la catastrophe et machin. Pas du tout. Parce que de ton problème, tu vas grandir. De ton histoire, de ta difficulté, de tout ce que tu veux, de ta peine, tu vas te relever et tu vas grandir. Faut juste une chose, ne te détache pas d'Akadosh Baruch Hu. Ne laisse pas le Beit HaMikdash en ruine. reconstruis le Beth Amikdash tous les jours, toutes les minutes, tous les jours tu reconstruis ton propre Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash qui est à l'intérieur de ton, de toi-même, tu te dois de le reconstruire. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui tu reconstruis pas ton Beth Amikdash, si aujourd'hui tu ne te lamentes pas sur tes pertes, tu ne te lamentes pas sur ta destruction, alors tu ne pourras pas te réjouir quand ton Beth Amikdash va se relever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même toi, en réalité, quand tu vas vivre, d'accord, à un moment où un peu mieux, c'est, tu vas un peu mieux, la situation, elle s'améliore, tu n'es même pas capable de voir que la situation, elle s'améliore. Pourquoi? Parce que tu es tellement plongé dans tes problèmes, tu es tellement resté comme à l'époque du désert, toujours les plaintes, et toujours tu as des trucs, et toujours tu n'es pas contente, et toujours tu râles, qu'en réalité tu ne vois pas les bienfaits d'Hachem, tu ne vois pas les bontés, tu ne vois pas que même dans ta catastrophe, il y a un peu de lueur, il y a un petit peu d'accalmie, il y a du mieux. Et comment tu peux aller mieux? Quand tu es capable de voir qu'il y a du mieux. Parce que si tu n'es pas capable d'ouvrir les yeux et de regarder que malgré la situation, d'accord, qui, oui, c'est vrai, comme on a vécu nous, la destruction du temple, il n'y a plus personne, et les morts, et les machins, et tout ce que tu veux, c'était horrible. C'était horrible, vous ne vous rendez pas compte. Juste pour vous donner, il y a eu tellement de morts, tellement de... Le sang, imaginez-vous, vous allez à Yerushalayim, d'accord, le sang, il coulait, il nous arrivait jusqu'au genou. Mais vous vous rendez compte dans quoi on marchait? Ça veut dire que ça a été une catastrophe. Tellement de morts, tellement de destruction. Il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus rien. C'était la haine entre les gens, la guerre. Tout le monde vendait, tout le monde. Tu ne pouvais plus avoir confiance entre personne. Lo alenu. Tellement la famine, tellement l'horreur. Une femme, elle en est arrivée à manger son propre nourrisson. On ne peut pas imaginer ce qui s'est passé. On peut pas, c'était vraiment la ruine, c'était le désespoir.
Ville, parce qu'en fait, ils l'ont fermé.
Ils ont encerclé la ville, ils ont dit maintenant, il n'y aura plus rien. Il y avait la famine qui s'est installée, et pas chou. C'était une catastrophe. Et pourtant, au milieu des ruines, au milieu du feu, au milieu des cendres, quand même, Rabbi Akiva, il a souri. Pourquoi? Parce qu'il se rappelait de cette prophétie que c'est vrai. Il y a une histoire qui est écrite. C'est vrai. On va vivre des destructions, on va vivre des souffrances. Mais à la fin, tu verras, il y aura la reconstruction totale et finale. Et nous, on doit se rappeler de ça. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation personnelle, d'accord, qui est difficile, ne reste pas bloqué sur ton problème. Tu sais ce que tu fais? Fais-toi une photo finale. C'est quoi la photo finale? C'est qu'à la fin de ton histoire, Hachem, il va tout arranger. Et ça, tu dois y croire dur comme fer. Ne te laisse pas embrouiller par le Yetzer Hara qui te dit « Laisse tomber, c'est mort. » De toute façon, regarde, tu as essayé, tu essayes encore et encore. Et à chaque fois, tu tombes, à chaque fois, les mêmes histoires. Et à chaque fois, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est ta vie. Tu vas te détruire, tu vas mourir, on n'a plus rien, c'est terminé. Non, ça... C'est ton dimion qui veut te... C'est quoi le dimion? C'est ton imagination. C'est la force d'imagination, d'accord, qui s'appelle, Rabbi Nachman, il a dit, l'imagination, c'est le Yetzer Hara aujourd'hui. Donc, ton imagination, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut te descendre. Elle veut te dire, laisse tomber, la situation, elle est pourrie, elle restera pourrie, ne fais plus rien, c'est fini, tu n'as plus qu'à te désespérer. C'est pas vrai. Il n'y a pas une situation qui reste statique. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu renouvelle son monde. Tu dois y croire. Ça veut dire quoi, il renouvelle son monde? Il te renouvelle à toi aussi. C'est pas la peine le matin quand tu dis Moda Ani, d'accord? C'est pas la peine de rester avec tes histoires d'âge. Aujourd'hui, je suis un être nouveau. La mer, elle se renouvelle, les trucs, tout s'est renouvelé. Tout. Pourquoi moi pas? Pourquoi moi, je ne vais pas me renouveler? Pourquoi moi, je ne vais pas dire aujourd'hui, tu sais quoi? Ça y est, je suis une nouvelle personne, des nouvelles envies, des nouvelles façons de voir, j'avance. Non. Pourquoi? Parce que tu es une vieille grand-mère, il a dit Rabbi Nachman. Tu es devenu un vieux crouton parce que tu ne veux pas te renouveler. Tu es dans une routine, tu t'es installé dans des histoires, dans des machins, et tous les jours tu dis ressasse, comme les vieux, les pauvres. On ressasse. Non, lève-toi et dis non. Ça, c'est ce qu'il y a eu hier. Mais qu'est-ce qui a marqué? Machaya met. Ce qui s'est passé hier, c'est mort. aujourd'hui, il y a une nouvelle création. Et je fais partie de cette nouvelle création. Donc aujourd'hui, c'est encore de la nouveauté. Alors, tu vas me dire, oui, mais mon histoire d'hier, elle est encore aujourd'hui. Ouvre bien les yeux. C'est pas la même. C'est différent. Il y a des nouvelles tendances, des nouvelles nuances, des nouvelles histoires. Il y a des perceptions qui sont différentes. Avance avec ça. Garde espoir qu'aujourd'hui, c'est encore un peu mieux qu'hier. Et demain, ce sera encore mieux. Et garde en toi tout le temps, cette photo finale en te disant, la dernière touche, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là à côté de moi, il est en moi. Et il subit, il vit avec moi les mêmes histoires, en réalité. Quand tu as un problème, il vit le problème avec toi. Tu as un manque, il vit le manque avec toi. Tu pleures, il pleure avec toi. Il fait tout avec toi, Akadosh Baruch Hu. Il ne se sépare pas de toi. Mais rappelle-toi que le maître du monde, à la fin, lui, il va mettre la touche finale pour tout bien arranger. Ce qu'il te demande à toi, c'est, malgré ce que tu es en train de passer, continue ton job. C'est quoi continuer le job chez un juif ? Continue de croire en moi. Continue de croire dans mes paroles et dans mes promesses. Continue que Bezrat Hashem, il y a une chose qui est plus importante que tout, c'est la tchouva. C'est quoi la tchouva ? C'est réparer. D'accord ? C'est quoi la réparation qu'on doit faire ? C'est revenir chez Hashem. Chacun à son niveau, chacun selon ses degrés de perception. Mais c'est revenir chez Hashem. Ne serait-ce que lui dire, Hashem, tu sais quoi, je t'aime. N'a rien fait. Les gens, ils pensent, faire tchouva, c'est tout de suite, changer de mode de vie, tout. C'est quoi, oui, change de mode de vie aujourd'hui. Va voir Hashem, dis-lui, Hashem, je t'aime. J'ai vraiment envie de te faire sourire aujourd'hui. Aide-moi. Voilà, ça s'appelle faire tchouva. C'est revenir vers Akadosh Baruch Hu, à mon niveau, à mon échelle. Demain, ça sera encore autre chose. Et après demain, encore une autre chose. C'est ça, faire le travail. C'est, malgré ce que tu es en train de me faire vivre, Akadosh Baruch Hu, je continue de te glorifier. Parce que je suis venue pour ça. Je continue à rechercher ta volonté. Parce que je suis venue pour ça. Nous, on oublie ça. Nous, on croit, on veut notre propre volonté. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ta volonté à toi. Ta volonté à toi, elle doit s'annuler à celle d'Hachem. Donc va chercher c'est quoi la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, tu peux la trouver dans ton cœur. À partir du moment où justement tu rentres en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Avant, ils avaient le Beth Amikdash. Mais maintenant, comment on fait? On n'a plus le Beth Amikdash. Alors comment je vais faire pour être en connexion avec Hachem? Ben justement, quand je vais rentrer dans les parois de mon cœur et que je vais parler avec Akadosh Baruch Hu et que je vais sortir tout ce que j'ai dans mon cœur, même si c'est sale, même si c'est moche, même si ça sent mauvais, c'est pas grave. Sors ton point de vérité chez Akadosh Baruch Hu. Fais avancer les choses. Et c'est comme ça que tu reconstruis ton Beth Amikdash. Une parenthèse pour nous, les femmes mariées, qui est importante, c'est que notre maison, c'est un mini-temple. Donc, une femme, quand elle œuvre pour que dans son mini-temple, il y ait une présence divine, quelle qu'elle soit, même minime. Quand elle œuvre pour ça, eh ben, cette femme, elle apporte une pierre au Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'à chaque instant que toi, tu œuvres pour qu'il y ait la présence d'Hachem, tu ramènes des pierres pour la construction. Une des parties, on va dire, une des choses que tu peux faire pour instaurer la présence d'Akadosh Baruch Hu, on a marqué qu'un des noms d'Hachem, c'est Shalom. C'est la paix. C'est-à-dire que quand une femme, elle essaye, je n'ai pas dit qu'elle va réussir, elle essaye, ne serait-ce que par sa tefila, pour faire en sorte de maintenir ou d'instaurer le Shalom dans sa maison, malgré la situation, malgré la difficulté, malgré tout ce que tu veux, d'accord ? Quand elle essaye de garder un certain Shalom, eh bien, cette femme-là, elle va au-delà de ses limites, parce qu'en fait, au fond d'elle, elle n'a pas envie, elle a les nerfs contre tout le monde, d'accord ? Parce qu'elle va te sortir une liste comme ça, comme quoi ça ne va pas, et ce n'est pas comme il faut, et ce n'est pas ça, et ce n'est pas ça. Elle se dit, tu sais quoi, je vais aller au-delà de moi-même, je vais aller au-delà de mes limites, et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer malgré tout d'instaurer le Shalom. Quand j'instaure le Shalom, quand je fais en sorte que le Shalom il reste en place, eh bien, moi, je construis le Beth Amikdash. Donc ça, c'est aussi une notion qu'une femme, des fois, on dit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Ben voilà, tu sais quoi? Fais en sorte que chez toi, il y a une paix, il y a une certaine sérénité. Fais en sorte que chez toi, il y a un livre de Torah. Fais en sorte que, en sorte que chez toi, quand ton mari te dit, je vais au cours de Torah, eh ben tu sais quoi? Va au cours de Torah. Tu veux mieux encore? Fais-lui un petit gâteau pour ses petits copains à lui, ils vont faire le cours de Torah, ils peuvent manger un petit truc. Tu peux lui dire, tu sais quoi? Fais venir le cours de Torah à la maison. Chacune à son niveau. Chacune à son niveau. Même tu peux faire prier pour ton mari. Tu peux dire, tu sais quoi, j'ai pas encore la force de faire la grande paix, mais je vais faire déjà la paix entre moi et lui dans les chamaïms. Je vais prier pour lui, Shakadosh Baruch Hu. Ça, c'est la reconstruction du Beit Hamikdash. Et Bezrat Hashem, vraiment, je nous souhaite à nous toutes qu'on ait ce mérite de pouvoir vivre véritablement cette construction de Beit Hamikdash, qu'on ait le srout, Bezrat Hashem, de mamash, de se réjouir de la venue du Mashiach et de pouvoir le couronner. Comment on va couronner Mashiach? Un, parce qu'on aura fait des Teilim, et c'est important tous les jours d'essayer de faire même un petit peu de Teilim, en français, en anglais, dans la langue que vous voulez, d'accord? Parce que, justement, c'est le couronnement du Mashiach. Et dans les Teilim, si vous lisez bien tous les livres, d'accord, tout le livre du Teilim, si vous lisez bien le texte dans votre langue maternelle, vous allez voir que ce qui a marqué, en fait, c'est votre vie. Ce que David Améler il a passé, c'est ce que nous, on passe. Ce que nos ancêtres, ils ont passé, c'est ce que nous aussi, on passe. Donc, la destruction du Beit Hamikdash, elle est là, on la vit. Et nous aussi, on va maintenant faire en sorte que, Bezrat Hashem, on va reconstruire le Beit Hamikdash. Amen, Bimera, si Dieu veut. Amen. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre des petites feuilles.